Maintenant, j'appelle Verben Angeli de ATA.
Bonjour. Bien. D'abord, je vais remercier moi aussi pour l'invitation et surtout pour l'invitation qui permet à différentes associations, regroupements, organisations de faire état un petit peu de leur travail et de leur réflexion au niveau européen. Et c'est pas si fréquent que ça se fasse de cette manière, donc merci aux marches européennes de l'avoir fait. Alors, les marches, ça a été rappelé dans l'introduction par Christophe, c'est un mouvement qui a beaucoup œuvré à mettre en œuvre et une réflexion et une action d'emblée au niveau européen. ATAC, qui a une histoire qui est à peu près de la même date, hein, puisque vous fêtez aujourd'hui les 10 ans des marches européennes. ATAC va fêter ses 10 ans dans quelques mois. Quelque part, c'est vrai qu'on procède de la même démarche, en tout cas du même mouvement tel qu'il s'est constitué dans la situation des années précédentes. En même temps, ça a procédé de démarches un petit peu différentes, c'est-à-dire que les marches européennes, et je pense que c'est extrêmement significatif parce que c'est un mouvement qui a d'emblée voulu construire son action au niveau européen. Je pense que pour ATAC, les choses se sont passées de façon un petit peu différente et je dirais de manière un petit peu traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la constitution d'une organisation en France et on a eu une coordination après qui a voulu mener la réflexion avec différents groupes qui se sont constitués donc aujourd'hui dans 20-25 pays au niveau européen. En sachant que ces groupes sont d'importance diverse, hein, puisque on a aujourd'hui des groupes dans certains pays européens qui sont de quelques centaines de personnes, à une organisation comme ATAC Allemagne qui est près de 20 000 adhérents. Bon, en sachant que même ATAC Allemagne aujourd'hui est plus important numériquement qu'ATAC France, avec la crise politique qui a été assez importante qu'a connue ATAC ces dernières années. ATAC France, hein. Bien. Donc, nous, on a eu donc quelque chose qui ressemblait plus à des éléments de coordination. Ce que je veux souligner là, c'est que dans cette construction un peu plus traditionnelle, je pense qu'on était en même temps beaucoup plus percuté par ce que sont les contradictions, en fait, hein, liées aux problèmes politiques qui existent et tels qu'ils existent en France, sur la perception des enjeux au niveau international et au niveau européen, les débats politiques qui sont récurrents sur la façon de se comporter et d'avancer sur des revendications d'emblée à l'échelle européenne ou de partir d'une vision qui soit plus française et plus d'extension en fait de droits au niveau français qu'on voudrait voir arriver au niveau européen. Donc je pense qu'on était plus dans une démarche qui exprimait ces contradictions-là. Et c'est extrêmement positif de se confronter, comme on l'a fait alors là, avec les marches européennes ou dans les différents événements qui ont émaillé, on va dire, les 10 ans qui ont précédé, de se confronter à des mouvements qui, eux aussi, d'emblée, se constituaient comme ayant une volonté, des revendications, une action au niveau européen. Alors, des coordinations, il en existe en fait entre les différents attaques au niveau européen depuis 2000. C'est un travail qui a été effectif autour de différentes échéances, on va dire les forums sociaux européens quand ils ont existé, on va dire les manifestations contre les sommets européens, les manifestations contre les G8, qui ont été à chaque fois l'occasion d'un travail en commun. Et d'une certaine manière, on va dire que la combinaison alors de notre action coordonnée ou de l'action de mouvements comme les marches ou d'autres mouvements encore, c'est aussi ce qui a permis que au moment des grands débats qui ont émaillé le débat sur la Constitution européenne, qui ont permis que le nom en France ou que le nom en Hollande ait été porté par des courants qui étaient d'emblée des courants de solidarité internationale, de revendications sociales, de revendications contre la précarité, contre le chômage, de défense des droits sociaux et pas des revendications strictement nationalistes. Donc on est heureux aussi de voir que la contribution qu'on a eue de façon différente les uns et les autres ait permis cette affaire. Donc, dans la poursuite de ces victoires qui ont été obtenues au moment du traité constitutionnel et qui malheureusement ne se traduisent pas toujours, même si de temps en temps il y a une victoire politique, par des avancées décisives au niveau social, il y a évidemment du travail à continuer. Bon, ce travail, on l'a continué, par exemple, en faisant que les attaques d'Europe aient été particulièrement actives pour mener, y compris, une grande manifestation contre la directive Bolkestein, avec des résultats effectifs aussi en termes d'un certain nombre de modifications de cette directive. Et il y a un travail qui a continué et qui a été, pour nous, assez positif, avec l'élaboration d'un texte commun au niveau européen pour dire quelles étaient les conditions et quelles sont les conditions pour nous pour qu'il y ait un traité démocratique et de véritables avancées en Europe. Donc on a élaboré un texte en commun, les attaques d'Europe, qui s'appelle les 10 principes pour un traité démocratique, et on a élaboré aussi une critique commune contre les propositions qui ont été faites, alors pour beaucoup à l'initiative de Sarkozy, mais relayée aujourd'hui et qui va être co-signée par l'ensemble des gouvernements européens à l'échéance de la mi-décembre. Donc ce fameux mini-traité qui n'est pas un mini-traité, même s'il y a quelques concessions qui ont fait qu'aujourd'hui on peut avoir un fouillis d'arguments qui essayent de prendre en compte un certain nombre des critiques qui avaient été faites au projet constitutionnel, mais néanmoins la construction européenne telle qu'elle a été envisagée depuis le début par les gouvernements existants en Europe continue sur ses rails, dans le sens de prioriser de façon absolue le droit à la concurrence sur l'ensemble des droits qui nous semblent à nous, les uns et les autres, des droits fondamentaux, en relativisant totalement, y compris les propres textes qui ont été écrits au niveau de l'Europe sur cette question, en continuant d'un point de vue totalement antidémocratique dans la vision institutionnelle qui est mise en œuvre, c'est-à-dire une vision institutionnelle qui priorise les positions gouvernementales et les négociations gouvernementales par rapport à la prise de position des peuples eux-mêmes des peuples européens ensemble, et qui continue à remettre en cause fondamentalement les services publics, y compris en priorisant dans les dépenses budgétaires les dépenses militaires. Donc cette caractérisation, c'est une caractérisation qu'on a fait ensemble. Bon, ça pourrait sembler un exercice relativement simple. En même temps, c'est l'apprentissage qu'on fait dans toutes ces discussions entre les différents groupes attaques qui existent en Europe et dans les liens qu'il peut y avoir d'ailleurs aussi entre différents comités locaux, puisqu'il y a des jumelages entre les comités locaux d'attaque dans certains pays les comités locaux en France. Ce travail commun, c'est en même temps un vrai travail d'élaboration qui fait qu'on est obligé de se projeter en avant et pas simplement prendre ce qui semble pour nous des acquis dans chacun de nos pays, au plan démocratique ou de notre vision de l'Europe sociale, etc. Donc je pense qu'il y a des véritables progrès qu'on est en train de faire sur cette base-là, y compris qu'on veut continuer autour de la question de l'Europe sociale de façon importante, avec une échéance qui va venir au début du mois d'août prochain, puisqu'il y aura une université européenne pour la première fois d'attaque, qui devrait se réunir à Sarrebruck, donc en Allemagne, et qui devrait être l'occasion de mettre en œuvre non seulement et de la réflexion, comme on le fait régulièrement dans les universités d'attaque, mais aussi de faire que la confrontation pour des organisations qui se disent d'éducation populaire comme la nôtre, fasse que cette confrontation elle puisse se faire aussi avec les méthodes des uns et des autres qui sont souvent un peu différentes entre les différents pays. Donc voilà, un dernier mot sur un point d'actualité et qui fait le lien entre nos préoccupations européennes et des préoccupations plus internationales et qui est aussi un travail qu'on essaye de faire en commun au niveau européen. Il y a un sommet qui se tient en ce moment à Lisbonne, qui est le sommet entre l'Europe et les pays africains. Au-delà de la dénonciation qui peut être faite dans les médias de la présence de tel ou tel dictateur dans ces sommets, on veut souligner le fait que la volonté essentielle de ce sommet-là, c'est la mise en place, après les échecs de l'OMC, un peu moins vite. Excusez-moi. Bien. la volonté de mettre en place, après les échecs de l'OMC auxquels le mouvement altermondialiste a globalement contribué de façon extrêmement importante, de mettre en place des accords bilatéraux entre l'Europe et les différents partenaires africains, qui sont des accords de libre-échange, des accords écrasant les droits des populations locales et des accords qui sont faits sous pression, des accords qui sont faits sous la pression de l'Europe dans des conditions complètement inégalitaires. Donc j'en arrête là, je m'excuse si j'ai été un peu rapide. Voilà.
Nous continuons avec Christian Marieux Sutterel, les luttes des cheminots en Europe.
C'est bon. Bonjour. Donc un petit point un peu sur l'expérience, la modeste expérience des luttes syndicales de cheminots en Europe, au nom de Sudrail. D'une part, un rapide retour en arrière, effectivement Christophe y a fait allusion dans son intervention, pour dire qu'un des éléments importants quand même, dans ce cadre-là, précède en fait la création de Sudrail. Donc on ne se permettra pas de la reprendre quand même à notre compte en tant que Sudrail, même si un certain nombre de camarades qui ont ensuite participé à la création de Sudrail étaient à l'initiative de ça. C'est une grève européenne des cheminotes et des cheminots en 1993, donc sur la question assez largement, on va dire, des services publics, quoi, les services publics, la sécurité ferroviaire, etc., etc., quoi. Donc, pour en passer assez rapidement à notre expérience à Sudrail dans le cadre international, enfin, plus précisément dans le cadre européen, on a petit à petit constitué un réseau syndical européen de syndicats, donc de travailleurs du rail, de cheminotes et de cheminots. Qui d'ailleurs, dont l'expérience et l'histoire croisent en partie celle des marches européennes, puisque à l'origine, ce réseau était essentiellement constitué de syndicats comme Sudrail en France, de la CGT d'Espagne, qui a aussi largement participé aux premières marches européennes, et d'un certain nombre de syndicats dits de base en Italie, dont certains aussi ont participé aux marches européennes. Ce réseau, on l'a constitué donc à travers des rencontres directes donc des camarades qui animaient ces syndicats, mais y compris très rapidement, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce que ne font pas forcément les organisations syndicales européennes, j'allais dire plus institutionnelles, et donc pour aller vite ce qui est lié à la CES, on l'a fait à travers aussi des tracts internationaux. Donc directement distribué en fait dans les gares, dans les dépôts, etc., aux cheminotes et aux cheminots de nos différents pays, et par y compris quelques tournées syndicales de camarades donc d'Espagne venant de rencontrer en fait les cheminots français ici à Paris ou ailleurs d'ailleurs, nous allant en Italie, etc., etc., quoi. Donc par un échange direct, et ça a été un truc important parce que ça permet y compris justement de sortir de ce qui est trop souvent un peu l'activité internationale, en tout cas européenne, du syndicalisme, c'est-à-dire tout ce qui est tourné un peu trop sur l'institutionnel. Donc des contacts directs qui ont permis, y compris de se poser la question de l'élargissement évidemment de ce réseau, parce que France, Espagne et Italie, c'est quand même assez modeste au niveau européen, et petit à petit, même si on est encore loin de ce qu'il faudrait, on a réussi à élargir et à élargir vis-à-vis d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, et je vais vite, mais symboliquement, le fait de travailler avec un syndicat britannique, qui est le principal syndicat des transports en Grande-Bretagne, qui s'appelle RMT, pour les chemins de fer, c'est évidemment important, puisque l'expérience anglaise dans le domaine de ce qu'on appelle la libéralisation des chemins de fer, qui est en fait, comme tout le monde le sait, la casse du service public avec toutes les conséquences, y compris en matière de sécurité. C'était important d'ouvrir vers la Grande-Bretagne, et on l'a fait donc vers la Grande-Bretagne, vers l'Allemagne, avec des syndicalistes organisés, on va dire, une partie de l'opposition, en gros, de ce qui est le syndicat du DGB dans les chemins de fer. Donc avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, un certain nombre de pays donc plus larges. Donc je disais élargissement au niveau d'autres pays, mais élargissement y compris justement vers des syndicats, et c'est le cas par exemple de RMT, qui ne sont pas des syndicats qu'on peut qualifier, on va dire, soit de base, soit alternatif, quoi, un peu comme on avait avec nous la CGT d'Espagne ou les syndicats italiens. Puisque RMT, par exemple, est un syndicat qui fait partie de la Fédération des Transports de la CES, quoi. Donc, et le choix qu'on a fait, c'est de pas prendre ça comme ligne de fracture en disant on travaille soit on demande à rentrer à la CES et on ne travaille que avec les syndicats de la CES, soit on est hors de la CES et on refuse toute collaboration avec ceux qui y sont. Le choix, c'est un choix bien plus pragmatique. Et de se poser la question de travailler en fait avec ceux qui sont prêts de fait à remettre en cause la libéralisation des chemins de fer pour ce qui nous concerne. Mais évidemment, ce combat-là, je m'intéresse des fois de temps en temps à autre chose que les chemins de fer. Hein. J'interviens que sur les chemins de fer parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a constitué ce réseau qui a réussi à re-appeler à nouveau, d'ailleurs, à une journée de grève au mois de mars 2003, à un moment où se décidait officiellement l'ouverture à la concurrence dans le domaine du trafic marchandises, et y compris dans ce cadre-là, en France, a pesé modestement sur un appel unitaire de l'ensemble des entreprises syndicales sur cette question-là, à partir de l'appel qu'on avait pu lancer au niveau européen avec ce réseau. Donc, un des enseignements, c'est vraiment le côté relation directe, hein, je disais, entre d'une part évidemment les camarades qui animent les différents syndicats, mais y compris on a mis en contact et ça marche, pour être honnête, pas difficilement, mais ça marche quand même, avec des contacts directs entre syndicats locaux et donc des échanges qui se font, y compris comme je disais tout à l'heure, en termes de présence dans les gares, dans les dépôts, etc., de tournées. De tournée syndicale internationale, quoi, hein, qui est une chose là aussi que ne font pas les organisations syndicales qui ont beaucoup plus de moyens. Et l'autre aspect, c'est que ce réseau en tant que tel, même si c'est pas, on va dire, une décision du réseau, parce que justement c'est un réseau, que c'est pas plus structuré que ça, c'est qu'on a quand même amené, donc, y compris des organisations syndicales qui n'étaient pas dans la démarche au début, à se poser la question, y compris de se mettre en relation, non seulement avec toute la dynamique, on va dire, altermondialiste, mais y compris plus spécifiquement sur les marches européennes, avec les syndicats, donc je citais tout à l'heure, notamment les syndicalistes allemands et les camarades britanniques. Tout ça étant pour nous évidemment très lié entre le travail syndical professionnel, entre guillemets, notre activité intra-professionnelle et internationale, et donc, j'allais dire, un peu les marches européennes sont quasiment un peu au confluent de tout ça, puisque ça nous permet justement de rencontrer des syndicalistes, parce qu'on est syndicalistes, mais aussi des camarades des autres mouvements sociaux, et ça à l'échelon international. Et c'est pour ça que, avec des différences selon nos possibilités d'ailleurs, selon les années, les moments, mais on a toujours tenu à être dans le coup sur les marches européennes depuis celle d'Amsterdam, quoi. Voilà.
Je profite aussi pour saluer nos amis de Belgique, de la FGTV qui viennent d'arriver, une forte délégation de 11 personnes. Et puis aussi peut-être faire un petit rappel au niveau des pays qui sont présents. Il y a Belgique, donc la Finlande est présente, la Macédoine, nous avons une représentante de la République de Macédoine ici également, l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne, un représentant aussi du réseau des trois frontières, France, Suisse et Allemagne. J'espère que je n'ai rien oublié. Et l'Autriche, évidemment. Et l'Autriche. Pardon, Léo.